Radio Malpassé. J'ai trouvé Radio Malpassé.
Les 17, 18 et 19 avril, Radio Grenouille devient Radio Malpassé. Restez calés sur le 88.8 pour rencontrer les habitants du boulevard Bouge, du bâtiment K, de l'avenue Saint-Paul, des cèdres, des lauriers, des genêts, des cyprès. À Malpassé, c'est une caravane jaune qui nous servira de studio, on vous y attend. Et rendez-vous vendredi à 18h devant le bâtiment K, 36 rue Marathon, pour le temps libre, en direct et en public.
HCM invite au K1 le monde. Marseille, cité de Malpassé.
Radio Malpassé, c'est les 17, 18 et 19 avril sur le 88.8.
Radio Malpassé.
Radio Malpassé.
Radio Malpassé sur les 3-8 de la bande FM.
On est à Malpassé, on est devant l'école des Oliviers. Radio Malpassé, c'est sur les ondes, sur le 88.8, les 17, 18 et 19 avril. On est devant l'école des Oliviers parce qu'on est avec Marc, Ada et Caramo. Et Marc, on te connaît sur les ondes du 88.8 parce que tu as fait des chroniques pendant des années sur les ondes du 88.8. Et on savait que tu avais été instituteur dans une des écoles de Malpassé. Alors on s'est donné rendez-vous devant l'école des Oliviers. On est ensemble et on va aller rejoindre, on en dira plus tout à l'heure, on va aller rejoindre l'aventure. C'est comment là où on est?
C'est comment comme environnement urbain?
Ouais.
C'est mélangé, je dirais. Il fait très beau aujourd'hui, donc c'est... je trouve ça beau, mais parce que la lumière marseillaise, elle,
elle
rend tout beau.
Là,
quand il y a ce ciel bleu et ce soleil. Après, l'environnement social, il est difficile. Enfin, moi, je parle de ça, moi, j'enseigne ici il y a quelques années à l'école. C'était un environnement qui était difficile, mais qui était motivant aussi parce qu'il était difficile. Moi, j'ai commencé à enseigner ici, en fait. J'ai commencé ma carrière d'enseignante dans cette école-là. Donc, c'est vrai que c'est un lieu qui est important pour moi. J'ai enseigné 3 ans comme maître d'école avant de passer dans le secondaire. Et j'ai découvert beaucoup de choses socialement, pédagogiquement, humainement. Ça a été des années très formatrices. Donc, voilà, c'était compliqué, c'était parfois tendu, mais toujours intéressant.
Caramo, face à nous, il y a les Bleuets, c'est une grande tour et c'est là que tu as habité, c'est là que tu habites?
Oui, c'est là que j'habite, ça fait 7 ans maintenant. Sincèrement, ça va, ça se passe bien. Avant, j'habitais à Andou, pas très loin des plages, donc, et j'ai déménagé là et sincèrement, ça va.
Mais dis donc, c'est pas pareil, Andou,
non,
le Malpassé,
oui, non,
hein.
Non, c'est rien à voir, c'est vrai que c'est un autre monde. Bon, j'arrivais ici, j'étais donc en 3e, c'est où j'ai rencontré mon ami Ada. Et depuis, on est toujours dans la même classe et ça va, ça se passe bien.
T'étais à Renoir, à Rostand?
Renoir, juste à côté là.
T'étais à Renoir. Mm. Et en face des Bleuets, de l'autre côté, il y a la grande barre des Cyprès?
Il y a les Lauriers. Et à côté, il y a la tour des Cyprès, là où je vivais depuis l'an 2000, parce que je suis pas né en France, je suis venu ici en 2000. J'ai vécu là-bas jusqu'en octobre, j'ai déménagé là, maintenant j'habite ici, là, au Lavande.
Alors, Ada, t'as dit t'habites au Lavande?
Maintenant, au Lavande, le bâtiment qui est là.
Ah ben voilà, juste à côté des Cyprès, il y a les Lavandes.
Avant, là-bas, là, ouais, en face, c'était les Cyprès.
Comment tu décrirais Malpassé, Ada? C'est quoi ce quartier pour toi?
C'est mon enfance, hein. J'ai toujours vécu ici. D'ailleurs, je connais presque pas Marseille. Ce que je connais le plus, c'est Malpassé. C'est ici où j'ai rencontré mes premiers amis, mes premiers profs. Il y en a avec qui je suis encore en contact, comme M. Rosmini aussi. Caramo, je l'ai rencontré là, juste là, à Renoir, en 3e, jusqu'à maintenant. Depuis, on n'a plus changé de classe, on a toujours été dans la même classe.
Ah oui.
Ouais.
Bon, ben on va passer devant votre collège alors, c'est
ouais,
ça? En descendant, on quitte donc l'école des Oliviers. On va essayer de marcher ensemble. Hop. Alors à la perche, on a Sébastien. À l'enregistrement, on a Jean-Baptiste. On est sur quelle avenue là?
Avenue Saint-Paul.
Avenue Saint-Paul à Malpassé.
Alors c'est rigolo ce qu'il disait Ada, parce que quand il dit je connais peu Marseille et je connais bien Malpassé, moi maintenant j'enseigne dans le 13e, donc pas très loin. Et demain matin je les amène au MUCEM, des élèves de terminale. Hein, et je leur ai dit bon, vous savez où c'est le MUCEM? Et la moitié, pas du tout. J'ai dit comment vous savez pas où est le MUCEM? On dit pas du tout, non, je vois pas du tout où c'est, comment on y va, etc. j'en ai même eu SEM pendant l'année 2013, on a parlé que de ça, on l'a vu à la télé, c'est quand même l'entrée du vieux port. Et la moitié, pourtant, c'est des gamins de classe moyenne, c'est pas du tout des gens qui vivent séquestrés, ou c'est des gens qui ont une apparence tout à fait normale et sympathique, mais ils ne savaient pas où était le Mucem, ce qui m'a quand même fait halluciner, quoi. Ouais. Je me suis dit, c'est quand même incroyable. Et ils m'ont dit, non, mais en fait, on va très rarement en ville, et quand on va en ville, à la limite, c'est rue Saint-Fé, rue de Rome, faire des courses, acheter des habits. Mais ils n'étaient jamais allés, Joliette, Vieux-Port, tout ça, Fort-Saint-Jean, ça leur disait rien.
Comment t'expliques ça, Ada?
Déjà par rapport au quartier, dans nos quartiers, on n'a pas trop envie de se mélanger avec les autres, déjà. Parce que, je sais pas, on aime bien avoir nos petites habitudes. Entre nous, entre amis, on n'a pas envie de sortir pour aller voir d'autres lieux. Et puis
t'as
même...
T'as pas envie, Caramo, tu peux parler aussi, hein. T'as pas envie ou t'as pas besoin?
Je ressens ni l'envie ni le besoin en fait. Mm-hmm. C'est seulement quand on va en ville, enfin quand j'allais en ville avant, c'était comme disait M. Rosmini, c'était seulement pour acheter, quand c'était nécessaire, pour acheter des vêtements, faire quelques courses et puis voilà, sans plus. Ouais, maintenant c'est vrai que j'y vais plus souvent. Mais avant, non, j'en ressentais pas du tout le besoin.
Là, on passe devant
notre ancien collège.
Alors, c'est quoi? Comment il est? On fait un petit stop, on a des choses à dire sur ce collège?
Ils ont des choses à dire, moi j'aurais autre chose à dire, mais d'abord Caramo peut-être. Caramo,
moi ce collège, je suis resté juste un an, juste la troisième je suis resté. Bon ben elle m'a permis d'avoir mon brevet, c'est pas plus mal, c'est pas mal. Et voilà quoi, après elle m'a permis aussi d'aller d'intégrer donc le futur lycée, donc Diderot, où j'ai fait 2 ans là-bas aussi. Et sinon ça va, c'était un bon collège, il y avait des bons profs, il y avait ça va, c'était pas mal.
Et alors, il est un peu particulier quand même dans son architecture, ce collège, il me semble.
Ça ressemble à une prison un peu.
Ah, tu dirais une prison. Je crois qu'il a été fait par quand même un architecte qui, je crois même, a eu un prix.
Ah bon?
Ouais. Il a été fait par un architecte qui s'appelle Poitvin. Et il a eu une équerre d'or, ce collège.
Ah, je sais pas. On apprend.
Mais comme quoi, les œuvres d'art, ça a aussi souvent besoin d'être... raconter, d'être
nommé,
nommé,
indiqué, ouais, c'est sûr.
Tous les grillages, tous les barreaux qu'il y a pour nous empêcher de sortir ou de...
Ouais, là tu parles des grilles extérieures.
Eh oui.
Ouais.
Non, mais à l'intérieur, ben, c'est comme tous les autres établissements, c'est... Il y a des salles et puis voilà, rien de plus, rien de moins. Moi je trouve pas qu'il mérite quelque chose en plus.
Ouais, c'est quand même un collège assez difficile de Marseille, il faut quand même le dire, quoi. Bon, de toute façon, le collège, c'est quand même le maillon faible de notre système éducatif. Moi, j'étais enseignant quand j'étais à Malpassé les Oliviers. J'étais bonjour mademoiselle, vous pouvez vous joindre à nous, hein. J'étais en CM2, donc la dernière classe avant le collège. Et je me rappelle que bon, on faisait quand même un travail approfondi, un travail qui donnait vraiment des fruits avec presque tous les jeunes, quoi, tous les enfants. Et très souvent, quand ils passaient au collège, notamment les garçons, il faut bien le dire, il y avait vraiment une déperdition, quoi. Il y avait quelque chose qui se perdait au niveau de la rigueur, au niveau du travail, au niveau du rapport à l'école. Parce qu'en fait, bon, quand ils étaient dans ma classe, ils avaient un seul référent. Je passais 27 heures avec eux, donc plus qu'avec parfois certains, plus qu'avec leur père, etc. Et là, ils arrivaient au collège, il y avait 10 enseignants, tout ça, ils étaient un peu perdus. Et d'ailleurs, j'ai un peu mauvaise conscience, mais je me souviens que certains parents me disaient, bon, on hésite, Rostand, Renoir, le privé, tout ça. Et c'est vrai que quand les gamins étaient, c'était souvent des parents de filles, notamment de filles d'origine arabe, qui étaient des bonnes élèves, très studieuses, qui réussissaient bien à l'école. Et même si je suis très, très attaché au service public, j'avoue que parfois je leur disais, bah écoutez, ouais, peut-être que si vous avez l'occasion de les mettre ailleurs, dans le quartier, mais peut-être dans le privé, ça leur correspondra peut-être mieux, parce que je voyais quand même ce décrochage très fort, quoi. Hein. Le taux de réussite au brevet, Caramo, il a eu le brevet, Ada aussi, mais le taux de réussite au brevet, il est faible ici. Hein. Faudra le vérifier, le pourcentage, mais il est quand même faible. Et donc vous êtes des élèves, bon maintenant ils sont en classe préparatoire tous les deux, donc c'est vrai qu'ils sont pas tout à fait typiques, quoi, peut-être de tous les élèves du collège, mais il y a quand même beaucoup 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 d'élèves qui sont en échec scolaire dans ce collège et qui ensuite, ben, malheureusement, font autre chose que trouver un travail légal ou voilà, quoi. C'est vrai que ça existe aussi, quoi.
Donc vous êtes quoi, des exceptions tous les deux, hein?
Des exceptions, non. J'ai des amis aussi qui ont continué, qui sont en école d'ingé. Il y en a qui sont... j'en ai un qui est à Thiers, qui fait une classe préparatoire.
Super.
J'en ai un autre qui a fait qui a eu son DUT, qui a commencé une école d'ingé, mais qui a dû arrêter par rapport au fait que ça ne suivait pas financièrement, parce que ce n'était pas à Marseille. Mais là, il est revenu à Marseille, je crois qu'il fait une licence ou quelque chose comme ça à la fac.
Et toi, ton parcours, il est un peu particulier quand même alors. Ah oui, donc quand tu as quitté le collège, qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, en quittant le collège, je voulais faire un BEP et puis aller travailler. Mais une fois arrivé au BEP, je l'ai passé, je l'ai eu, je me suis dit, ça s'est passé si facilement que je tenterais bien ma chance en bac pro.
Et tu voulais faire quoi comme travail?
Moi, je faisais dans tout ce qui était installation électrique. Je travaille sur les chantiers, j'ai fait un BEP puis un bac pro. Après, on a eu une prof qui s'appelait Madame Ada dans notre lycée à la Floride qui nous a parlé de la CPES où on a rencontré Monsieur Rosmini.
Oh là, la CPES, qu'est-ce que
c'est? La CPES, c'est une classe. Disons qu'avant, un élève de bac pro ne pouvait pas accéder à une classe préparatoire. La CPES, c'est le pont entre les deux, en fait. Nous, on pouvait au mieux rêver d'un BTS après un bac pro.
Ouais.
Et la CPES nous permet de pouvoir continuer dans les études supérieures, mais à un niveau vraiment élevé, en classe préparatoire, pour pouvoir intégrer une classe d'ingé par la suite.
Et ils s'en sortent bien tous les deux.
C'est là qu'on a rencontré M. Rosmini, et puis voilà. Et lui, il était avec moi au CP.
C'est vrai?
Sérieux? Tu fais quoi maintenant?
Non, je cherche du taf.
Eh ouais.
Je cherche du taf. C'est une histoire un peu particulière, celle que vient de raconter Ada, avec donc la création d'une classe dont tu sais des choses, Marc.
Oui, j'y enseigne, c'est au lycée Artaud, donc c'est pas mal passé, hein, c'est dans le 13e arrondissement, entre La Rose et Saint-Jérôme en gros. Oui, c'est une classe qu'on a créée justement, notamment, enfin que Madame Nigita, le proviseur du lycée, a initié pour faire mentir un peu ses statistiques, parce que notre système scolaire est un système extrêmement figé, hein, les dernières enquêtes PISA. C'est vrai qu'Ada et Caramo, ils peuvent citer plein de copains à eux qui ont réussi, mais c'est quand même les gens qui font mentir les statistiques. Ouais. Malgré tout, on sait très bien que quand on va au collège Rostand-Renoir, les probabilités qu'on intègre une classe prépa sont faibles. C'est, voilà, même s'il y aura toujours des exceptions, heureusement. Hein. Et la CPES du lycée Artaud, classe préparatoire à l'enseignement supérieur, c'est justement pour repérer des profils exactement comme eux, en fait. Parce qu'il est évident, que quand Ada dit « moi je voulais juste passer un BEP et travailler », je veux dire que ce soit Ada ou Caramo, c'est des jeunes qui ont un potentiel très important. Je veux dire, c'est bon, voilà, je ne dis pas pour vous flatter, c'est la vérité. Vos résultats le prouvent d'ailleurs, c'est pas juste une idée. Et voilà, et on s'est dit, c'est vrai que c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un peu plus dans notre système scolaire de ponts comme ça qui permettent de permettre à des gamins qui ont été orientés parfois un peu par défaut ou pour des raisons qui leur ont échappé, et alors qu'ils sont tout à fait capables de poursuivre des études prestigieuses, longues et d'accéder à des postes de responsabilité ou peut-être y prendront plus de plaisir, enfin j'espère.
Donc Caramo et Ada, vous êtes en classe préparatoire. Vous habitez à Malpassé. Comment vous le voyez, votre avenir? C'est quoi le futur qui est devant vous? Comment vous allez le construire?
Sincèrement, nous, déjà, si on peut accéder à l'école d'ingénieur, on aimerait déjà quitter la ville pour aller voir ailleurs un peu, histoire de s'orienter plus vers d'autres cultures, même...
À l'étranger?
Peut-être, parce qu'on sait qu'il y a des écoles d'ingénieurs où dans la troisième année, ils font souvent des stages à l'étranger, dans d'autres pays comme le Canada, tout ça. Et sincèrement, ça nous intéresse et nous, on aimerait bien s'orienter vers l'énergie renouvelable.
Donc,
voilà, ça c'est un rêve un peu, mais bon, on va tout faire pour y accéder.
Alors là, donc on est passé devant les collèges, on est arrivé au bout de la rue. Alors est-ce qu'on est arrivé au bout de la rue ou pas? Là, on est devant le centre social, il est à notre droite. À notre gauche, on est passé devant la mosquée. On va arriver sur la place des Cèdres, c'est ça?
C'est ça.
C'est quoi? C'est le cœur du quartier, la place des Cèdres?
C'est un mini supermarché, enfin, je sais pas, un mini centre commercial, on va dire. Il y a un snack, il y a un coiffeur, il y a une pizzeria, il y a une alimentation, une boulangerie. Ouais, c'est un mini centre commercial, on va dire.
Caramo, il a travaillé au centre social, il m'a dit.
Oui, j'ai travaillé en tant qu'animateur, là, j'y suis toujours. Je travaille pendant les vacances, en fait, avec les jeunes de ce quartier, de tout Malpassé, quoi. Et voilà, donc leur projet, c'est surtout de les intégrer dans la société, donc de les faire sortir un peu du quartier, de les envoyer un peu. On fait des voyages, et même à la fin de l'année, ils vont peut-être aller en Corse aussi, grâce à un projet qu'ils font de nettoyer le quartier. Donc voilà, c'est surtout pour les, essayer de les, d'un peu les faire sortir. Voilà.
Bah, comme vous, c'est plutôt bien. Hein.
Non, mais ils n'ont jamais envie de sortir. Je
ouais.
Bah, à la fois, vous disiez que vous n'aviez pas envie de quitter Malpassé et carrément, ils viennent de dire que vous partirez à l'étranger.
Moi, j'ai une autre vision de la chose parce que moi, je n'ai pas toujours vécu ici en fait.
Ah,
j'étais toujours en ville. Quoi, donc. Et moi j'ai toujours connu, en fait, dès que je sortais de l'école, ben, on pouvait aller en ville, c'était même pas 10 minutes à pied.
Puis vous êtes né à Ajaccio aussi,
monsieur. Moi je suis né à Ajaccio aussi. Et voilà, ben, moi j'ai une autre vision que mes camarades du quartier. Ben, eux, ils aiment pas trop. Même une fois, je suis allé avec mon collègue Ada en ville, il m'a dit, mais je suis jamais venu, c'est quoi ça? Alors que moi, voilà, moi je connaissais parce que j'habitais là-bas. Hein. C'est, voilà, on avait une autre vision de...
Pourtant, à Paris, au comité d'éthique et tout, il était à l'aise, Ada, donc il cache bien son jeu.
C'est pas ça, c'est que, en fait, plus petit, regardez, j'habitais là.
Ouais.
Et là, derrière ce bâtiment que vous voyez là,
tour.
Ouais, derrière les lauriers, il y avait un stade bleu, un stade de foot. Je sortais de l'école, c'est à l'école Bouge, c'est là, ça c'est collé. Je sors de l'école, je rentre chez moi, je pose mon sac, je reviens, je vais au stade, je vais jouer au ballon.
Et le lendemain, ça recommence.
Et voilà, pourquoi j'irai en ville? Qu'est-ce que j'irai me casser la tête en ville? Je restais là avec mes amis et puis c'était fini.
Ouais.
Alors là, c'est quand même bizarre la vision qu'on a parce que donc, si on regarde, pardon Sébastien, si on regarde, alors si je regarde face à moi, j'ai le centre social, il est blanc, il est beau, il est neuf, et si je me retourne, alors là, je vois un petit immeuble de 4 étages, la plupart des fenêtres sont murées. Si elles ne sont pas murées, on sent que ce n'est pas habité, mais il reste quand même du linge à certaines fenêtres. Où est-ce qu'on est là, Ada et Caramo? Dans quoi on est?
Vous êtes en pleine transition parce que le quartier il est en train d'être rénové. Comme là, ils ont construit une maison de repos pour les personnes âgées. Là, le centre il a été fait il n'y a pas si longtemps que ça. Là, vous voyez, il y avait un bâtiment, mais il a été à moitié enlevé. C'est pareil pour là. Et petit à petit, les personnes déménagent. Comme moi, comme je vous le disais, j'habitais au Cyclé. Maintenant, je suis sur la Vande. Ils vont détruire la tour, c'est normal. Donc, petit à petit, les gens déménagent et on enlève les anciens bâtiments pour en refaire des nouveaux.
Alors, par exemple, Théo Lavande, tu vas y rester ou tu vas redéménager? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est prévu dans...
Ce qui est prévu, ben, nous, ils nous disent qu'on va y rester, mais on ne sait pas. Mais de toute façon, c'est la même chose. Hein. Ils nous enlèvent des cèdres pour nous remettre dans un quartier où on vit dans les mêmes conditions. Les beaux bâtiments qu'ils font, ce n'est pas pour nous.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relogements qui vous sont proposés dans les bâtiments qui vont être
faits? Moi, je sais qu'avant de pouvoir déménager au Lavande, on nous a proposé d'aller à la Busserine.
Mm-hmm.
Pour moi, c'est pire que des cyprès. Mm-hmm. On nous a proposé Frévalent. On a refusé aussi. Et là, ils nous ont proposé au Lavande, on est parti. Dans le quartier, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. En ce moment, ils sont en train de privatiser le bâtiment, je crois. Ils sont en train de mettre des grilles pour rendre ça accessible seulement aux personnes qui y habitent. Du coup, ouais, on a dû accepter, mais au bout d'un moment, apparemment, si on refuse trop, ils nous donnent un machin et puis on n'a plus le choix, quoi.
Donc vous avez choisi les lavandes.
Oui.
Un peu en colère avec tout ça, un peu en question ou...
Ouais, perso, moi, j'ai pas le temps de me casser la tête avec ça, j'ai mes études et puis ouais. Voilà.
Vous avez le droit d'être en colère, là, c'est pas...
Non, c'est pas que je sois en colère, c'est que, voilà, j'y pense même pas, je suis là. Et puis même, hein, je veux pas vous mentir, à l'intérieur, c'est mieux qu'au Cyprès.
Ouais.
C'est plus calme, il y a plus d'espace déjà, et puis le loyer, c'est le même, donc je vois pas ce que ça change. Hein. Pour moi, ça ne change rien.
On continue, on avance un peu.
Allez.
On va jusqu'à... On va jusqu'au terme de notre promenade. On avait dit qu'on irait vers l'aventure. Moi, j'aime bien dire ça. Je trouve que c'est beau d'aller vers l'aventure.
Aller vers l'aventure, c'est beau. Ouais.
Alors, l'aventure, c'est toute une histoire.
Ah ouais, c'est une histoire. Là. En fait, donc, Richard Baquier, il installe cette œuvre en 1988.
Parce que l'aventure, c'est ça. C'est une œuvre de Richard Baquier qui a été installée
commande
dans
publique.
La cité de Malpassé.
Voilà, grande commande publique en 88. L'œuvre est détruite très rapidement, on va en parler quand on sera sur l'œuvre, on arrive. Et puis donc moi j'enseigne ici en 95.
C'est mieux de traverser là-bas.
On va traverser là-bas, ouais, parce que là il y a des bus qui passent.
Ça, et pas en 95, donc avec mes élèves, puisqu'il y a une rétrospective, puisque Baquier meurt dans ces années-là, il y a une grande rétrospective Baquier au MAC en 96. Et donc toute l'année, je travaille sur Baquier avec mes élèves. Alors d'abord sur la mémoire de l'aventure, parce que comme c'était en 88, et là on est en 96, donc c'est 8 ans après, donc mes élèves avaient des vagues souvenirs, ou en tout cas leurs grands frères. Donc d'abord, j'aurais fait dessiner, c'était quoi l'aventure, tout ça. Puis après, on avait créé des œuvres à la manière de Richard Baquier. Et ce qui était très sympa, c'est que quand j'étais allé au MAC, finalement, à la fin de l'année, donc dans ma classe, il y avait essentiellement beaucoup d'élèves d'origine arabe, quelques élèves d'origine africaine, quelques gitans, etc. Et en fait, ils étaient très érudits en art contemporain, et notamment sur Baki. Alors les conférenciers au MAC, ils hallucinaient un peu, quoi, parce qu'ils s'attendaient à avoir une classe de base, des quartiers nord, etc. Et les gamins, ils disaient « Ah oui, mais ça fait penser à telle œuvre de Baki. » Et donc, c'était très, très drôle, quoi. Il y avait un décalage. Et j'adore ce genre de moment pédagogiquement, parce que où justement, l'élève n'est pas du tout celui qu'on croit qu'il va être et où il déjoue les stéréotypes. Voilà, donc là, on est vraiment au cœur de l'aventure, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors, il y a du pain par terre. Ça, c'est
les pigeons.
Pour les pigeons.
Voilà, donc vous savez ce que c'était ça les garçons ou pas du tout en fait
L'aventure, on a étudié ça je crois l'année dernière.
Ouais, on en avait
ils
parlé
avaient
en classe.
Ils avaient exposé la voiture là, ils l'avaient désossée et puis ils l'avaient exposée, c'était une BMW et ça avait fait polémique par rapport au fait que ce soit des quartiers en zone prioritaire et puis qu'il y avait une forte majorité d'immigration, de personnes issues de l'immigration qui vivaient dans la pauvreté et qu'on expose une BMW en disant que c'était une œuvre d'art. Enfin, je crois que c'était ça.
Ouais, vous avez retenu pas mal de choses. Ouais, effectivement, en fait, c'est ça. Bon, Baki, c'est quelqu'un qui travaille sur la culture populaire, c'est quelqu'un qui travaille sur le voyage, c'est quelqu'un qui travaille sur les voitures. Donc, quand on lui commande ça, il s'interroge parce qu'effectivement, qu'est-ce que ça veut dire de mettre des œuvres d'art contemporain dans des cités où il y a pas où il y a peu de stades, où il n'y a pas de services sociaux qui fonctionnent bien, où les gens ont l'impression de manquer de tout, et on va leur mettre de l'art contemporain. Donc, c'est vrai que ça pose question. Et donc, il fait une œuvre qui évoque un peu ça aussi. L'aventure, c'était plus loin. Alors, il y avait un truc en métal où il est marqué plus loin, plus loin, plus loin. L'aventure en grandes lettres de métal, c'était là-bas.
Donc, alors,
elle,
là-bas,
Elles étaient posées ici, les lettres, et c'était des lettres qui faisaient peut-être un mètre de haut. Quoi.
Donc, elles étaient posées en bord de rue, on va dire.
Voilà, exactement, ouais, qui faisaient l'aventure. Et là, on est vraiment. Alors là, on est sur la fosse où il y avait la fameuse BMW qui était désossée. Il y avait une vitre soi-disant incassable, bon, qui a été assez vite
donc
cassée.
On est sur la place des Cèdres, sous les arbres.
Voilà. Et tout le monde se demande ce que c'est, ce truc en béton aujourd'hui. Hein. Mais ça, c'était une fontaine. Avec une vue panoramique de Marseille, donc c'était une vue que Yves.
Alors, tu peux juste nous la décrire dans ces volumes.
Donc en fait, c'est un grand parallélépipède en béton. Il y avait sur chaque face une vue de Marseille prise de la Bonne Mère par Yves Gallois. Donc on voyait pas Notre-Dame de la Garde puisqu'il était à chaque fois dos à Notre-Dame de la Garde. Donc ça, c'était l'idée. Bon, justement, Marseille ouverte sur le monde, Marseille ouverte sur la mer. Il y avait de l'eau qui coulait dessus. C'était une fontaine qui était recueillie. Et là, donc il y avait la fosse avec. Avec la BMW désossée, comme on peut voir des voitures désossées aussi dans ce quartier, avec marqué Désir sur la vitre. Et après, voilà, il y avait ces deux dispositifs en métal. Et donc, c'est vrai que bon, cette œuvre, elle a été un peu le symbole aussi de la déconnexion, quand même, entre les milieux de la culture et les populations locales qui. Bon, ça a été mal préparé, ça a été mal médiatisé. Je veux dire, une œuvre comme ça, on ne fait pas que c'est. Il y avait, je trouve, une forme de violence symbolique, quoi, de dire en gros, ça c'est de l'art, ça c'est beau, ça c'est important, ça coûte très cher. À l'époque, ça avait coûté très cher. Et de dire, voilà, émerveillez-vous. Voilà. On attendait naïvement que des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont jamais vu une œuvre d'art, qui n'ont jamais mis les pieds dans un musée, qui n'ont jamais parlé d'art contemporain, d'un coup s'extasient devant une œuvre. Quoi. Donc ça s'est mal passé. Alors ce qui a été marrant aussi, c'est que. Un bon souvenir que j'ai ici, c'est qu'il y a quelques années. Je ne sais plus, il y a 4 ans, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus la date. Avec le Fonds Régional d'Art Contemporain, moi je travaille régulièrement avec le FRAC, je dis, j'aimerais bien organiser un débat, mais ici, dehors quoi, avec les gens. Alors là, ils me disent, ouais, mais ça craint dans la rue, tout ça, bidule, machin. Alors le centre social s'associe avec nous, puis le centre social me dit, non, il faut le faire dans le centre social, dans la rue, on se fait agresser, tout ça. J'ai écouté, on verra bien, si on se fait agresser, ça dira quelque chose de la ville aussi. Et puis si on ne se fait pas agresser, ça dira aussi quelque chose de la ville. Voilà, il ne faut peut-être pas être tout le temps. Ou alors il faut qu'il y ait la police. Alors je dis non, surtout pas la police. Et si y a la police, on va se faire agresser. Je dis si on arrive avec 2 quarts de CRS en pleine cité des Cèdres. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est les jours d'avant, j'étais allé dans les bistrots, j'étais allé voir les dealers, on avait parlé. Je leur avais expliqué, j'aurais dit voilà, dans 3-4 jours, on va venir, vous inquiétez pas, tout ça, micro. On avait branché le micro chez le marchand de kebab là. Et on s'était mis là. Alors ce qui était très sympa, c'est qu'il y avait eu beaucoup de monde. Alors la moitié des gens, c'était des gens du FRAC, des gens du milieu de la culture, bon, qui étaient venus un débat. Mais tous les autres, c'est des gens du quartier. Alors malheureusement, on a eu très peu de jeunes. Ce qui est peut-être symptomatique aussi. Hein. Alors tous les jeunes m'avaient dit, ouais, on viendra. Puis aucun est venu. Alors j'étais retourné les voir après, d'ailleurs, en disant, pourquoi vous n'êtes pas venus? On ne connaissait pas trop. Il y a aussi, parce que c'est intimide la culture, hein, il faut reconnaître, ça peut... Les jeunes ont souvent une relation en fait agressive envers la culture aussi, c'est les intimides. Ils se disent, Ils vont dire des choses qu'on ne va pas comprendre. C'est violent de ne pas comprendre ce qu'on dit. Quand je parle de violence symbolique, c'est ça aussi. Moi, si je parle à des gens qui ne comprennent pas ce que je dis, en gros, je leur montre que je suis intelligent et pas eux, que je suis cultivé et pas eux. C'est super violent. Mais par contre, les gens qui se rappelaient aussi étaient venus. Et ils étaient. Alors, ce qui était assez touchant aussi, c'est qu'en fait, il y a Ricardo Vasquez qui avait fait un mémoire à ce moment-là sur l'aventure. Il leur avait expliqué qu'aussi, en fait, l'œuvre s'était détruite un peu toute seule, qu'elle avait été mal conçue. Que c'était pas seulement parce qu'il y avait de la violence, etc. Ça les avait un peu rassurés dans un sens. Et puis, bon, l'idée, c'est que ce lieu, en fait, moi, je l'aime bien, en fait, ce lieu. Il est tout pourri. Il est tout pourri. Personne ne sait ce que c'est. Mais c'est. Pour moi, il est habité, quoi. L'esprit de Baquet. Bon, en plus, Baquet est mort assez jeune, etc. Il y a un mythe aussi autour de Baquet, quoi. Le Pasolini, enfin, il y a quelque chose comme ça, quoi. Et voilà, le fait d'être au-dessus de cette œuvre-là, qui est presque de l'archéologie, là, en fait, vous voyez. Il y a de l'archéologie de l'art contemporain. Non, mais c'est vrai, aussi bizarre que cela puisse paraître. À la fois, 88, c'est pas vieux. À l'échelle de l'humanité, c'est hier, mais pour vous, c'est super vieux. Vous êtes né en quelle année, Adam?
94
et...
93.
Et ouais, voilà, donc vous étiez, voilà, ça renvoie à votre toute petite enfance, quoi. Et donc voilà, c'est l'archéologie de l'art contemporain. Voilà, c'est un lieu qui est. J'aime bien amener des fois des amis de Paris et tout en leur disant voilà, ici il s'est passé quelque chose, et encore une fois ça dit quelque chose de la ville, de sa complexité. Ça partait d'une bonne intention, Baquier, je pense que c'était quelqu'un de sincère, ça y a pas de doute, mais voilà, c'était sans doute inadapté, sans doute c'était sans doute aussi le rêve de, bon, il y avait ce côté vigoureux à l'époque, la culture, etc. Mais c'était aussi une manière de nier ce que sont vraiment ces quartiers, il me semble, quoi. Moi c'est comme ça que je le vois aussi, quoi. C'était un peu un déni de réalité, quoi. Se dire, hop, allez, on va mettre une pointe d'art contemporain au Cèdre, et puis on repart, on va inaugurer, on repart. Bon, voilà, la réalité, elle est plus complexe, elle est plus tendue aussi, et pour moi, ça symbolise un peu tout ça, quoi.
Merci beaucoup à tous les trois. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, là, pour les...
De toute façon, deuxième année, hein.
Ah, c'est les examens, là, en ce moment?
Non, on n'a pas d'examen cette année, c'est l'année prochaine qu'on a les... Cette année, on a juste le concours blanc à la fin de l'année, qui va nous permettre de passer ou pas en deuxième année.
Ça va aller?
Oui, ça va.
Ouais. Caramo, ça va aller? Ada, ça va aller?
Ils ont un bon niveau, ils sont très bien adaptés à la classe prépa, on est très fiers d'eux, franchement.
Et toi, qu'est-ce qu'on te souhaite, Marc? Nous, on te souhaite de revenir sur les ondes du 88.8, parce qu'on aimait bien tes chroniques, mais tu nous expliquais tout à l'heure que ça demandait vachement de boulot, et on le sait, mais tu es toujours le bienvenu. Et tu as des choses qui s'annoncent devant toi.
Des choses
qui
s'annoncent.
Parce que tu fais plein de trucs, tu écris des livres.
Ah ben voilà, je vais finir, dans 15 jours d'écrire mon dernier livre. Alors tu peux me souhaiter, voilà, de trouver un éditeur.
Ah, et bon,
ça sera ça. Alors, ça sera en plus un livre qui sera vraiment dans la logique de Grenouille, puis ça s'appellera Méditation westernosophique. Et ça sera quand même largement inspiré des chroniques westernosophiques que j'ai fait pendant 2 ans à Grenouille. Alors, il y a des jeunes gens qui viennent nous voir. Vous voulez dire un mot, les jeunes?
Non. Bonjour.
C'est la radio.
Merci à tous.
C'est la radio. Non, pas en direct,
c'était
mais ça passera.
C'était à Malpassé, un travelling descendant avec Ada et Caramo. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Un DJ avec Caramo.
À bientôt.
À bientôt. Ciao.
Ah ouais. On va passer à la radio.
Radio Malpassé.
Radio Malpassé sur les 3-8 de la bande FM.